France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir donc dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, l'émission qui empêche de polluer et de réchauffer en rond, enfin qui essaye, c'est pas toujours gagné, avec aujourd'hui Claudine Lapersonne et Ludovic Asselot à la technique. C'est Anne Wenfeld qui réalise cette émission, assistée de Jean-Baptiste Audibert et de Jean-Christophe Pinaza. Alors, une petite humeur qui va mêler à la fois le carnaval et la Saint-Valentin. Cette semaine au Sénat, le carnaval, figurez-vous, c'était super. Oui, on s'est tous déguisés en ministres, syndicalistes, associatifs, bling-bling, drelin-drelin. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé avec nos marottes, nos grelots et nos masques d'écolo. Et puis pour notre super Mardi Gras, on a brûlé Sa Majesté Grenelle dans la cour du Palais du Luxembourg. Autoroute, pesticides, produits bio, tout le tralala, les bonnes résolutions au feu, les faucheurs d'OGM au milieu. Fin de la récré donc. Cette semaine au Sénat, on corrigeait les copies consacrées à nos amis les OGM. Alors tenez, au hasard, je vous lis un passage de l'article 1 du projet de la future loi. On a quand même tenté de transformer la liberté de produire avec ou sans OGM en liberté de produire avec des OGM ou de ne pas le faire. Alors cet amendement quand même a fort heureusement été repoussé dans la nuit, mais on reste loin du produire et consommer sans OGM du Grenelle. Et ce sera donc une très jolie petite loi, en grande partie inspirée par les grands semenciers et les biotechnologies, qui va organiser l'impossible coexistence entre les cultures OGM, les cultures conventionnelles et bio, et ça nous sera vendu comme étant un excellent compromis. La liberté des agriculteurs et des consommateurs, on vous l'a déjà dit, s'arrête là où commence celle de l'agro-industrie, c'est-à-dire dans notre assiette. Mais remarquez bien, il y a un point commun entre le Grenelle de l'environnement et le rapport Attali, c'est que le Parlement va nous passer tout ça à la moulinette et votera bien qui votera le dernier. Donc aussi maintenant, silence, on légifère. Et moi, je me suis dit que pour se changer les idées, c'est là que la Saint-Valentin arrive. On va s'offrir un petit bol d'air tout à fait sympathique avec la Saint-Valentin et quelques conseils pour fêter la nature et s'envoyer en l'air. Oui, oui, je m'explique. Élise Rousseau et Philippe Dubois répondent à cette grande question. Comment faire l'amour dans la nature, dans un documenté et facétieux ouvrage aux éditions Danger Public? Alors figurez-vous que c'est le désir numéro 1 des Français des deux sexes. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite. Oui, mais attention l'ami, fais gaffe, ne va pas n'importe où. Pas en plein champ, parce que d'abord tu risquerais de tomber sur une parcelle d'OGM non déclarée. De préférence, on ira plutôt en forêt, certes, mais à moins d'être fakir, on fera l'impasse sur les châtaigneraies des Cévennes. Oubliez également les forêts tropicales. Même si vous êtes un fan d'Indiana Jones, le serpent, l'araignée ou le jaguar risquent d'être de la partie. Fuyez aussi les bois périurbains. Petit rappel, du côté de Fontainebleau, vous avez 15 millions de visiteurs quand même par an. Et découverte de la nature ne rime pas forcément avec exhibitionnisme. Ne fumez jamais dans une forêt après l'amour. 20 000 hectares partent en cendres dans notre pays. D'une façon plus générale, vous éviterez les périodes de chasse, le gibier à poil étant extrêmement prisé. Vous aimez la montagne? Très bien. L'amour en montagne? Bon, la montagne, vous le savez, sa principale spécificité, oui, évidemment, c'est la pente. Ne jouez donc pas dans les éboulis et n'oubliez pas de consulter la météo avant votre départ. Vous éviterez également les hurlements. En effet, un loup, je rappelle, espèce protégée, s'est encore fait déboulonner par nos amis de la nature. Il y a quelques jours, c'était en Savoie. Au bord de la mer, alors là, au bord de la mer, la dune reste une valeur extrêmement sûre, mais là, gardez vos chaussures, le tesson de bouteille sournois guette votre talon. Et puis si vous n'aimez pas les moustiques, vous pourrez parfaitement aller en Islande, il n'y en a pas, mais là, vous ferez l'amour avec des moufles et un anorak, c'est aussi un choix. Bref, avant de vous lancer dans cette aventure pleine de dangers de la bête à deux dos qui est chère à Rabelais, vous pouvez lire ce petit bouquin, vraiment, comment faire l'amour dans la nature. Couvrez-vous dans tous les sens du terme, jetez vos déguisements, oubliez le reste, et quand on est amoureux, Mardi Gras, hein, c'est tous les jours. C'est pas vrai ça? Et l'amour en Outre-mer, mais qu'est-ce que ça doit être bien aussi. Donc l'Outre-mer, c'est vraiment le thème de cette émission avec nos deux invités, Jean-Luc Marty et François Letourneux. Jean-Luc Marty, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous êtes rédacteur en chef et directeur éditorial de Géo. Il a vous consacré donc ce numéro, une partie quand même de ce numéro de Géo avec en couverture la France d'Outre-mer, les clés du paradis. Ce qui frappe tout de suite, parce qu'évidemment on a des images tout à fait paradisiaques de l'Outre-mer, mais on devrait parler de ces fameux Outre-mer parce qu'en fait c'est extrêmement vaste. Je veux dire que on part de l'Antarctique, on a la Terre Adélie, mais on peut se retrouver en Nouvelle-Calédonie. C'est extrêmement important, quoi.
Mais c'est vrai que c'est 10 millions quand même de kilomètres carrés d'océans, qu'inclut les lagons, qu'inclut les atolls. L'outre-mer, en fait, j'allais dire, c'est un peu une France à l'envers, une France tropicale, une France exotique, une France un petit peu refoulée. Oui. Très, très souvent, dans l'esprit de nos concitoyens, chacun y voit un petit peu ses vacances. Mais je pense que l'outre-mer impose d'avoir une vision pas forcément ethnocentrée, un petit peu, puisque cet outre-mer, indépendamment de ses paradis liés à la biodiversité, aux écosystèmes qui posent problème, je pense qu'on va le voir avec François Le Tourneau tout à l'heure, notamment ce qui concerne la Guyane, les problèmes d'orpaillage, c'est aussi des peuples qui sont arrivés à un certain moment-là, j'allais dire qu'ils l'occupent et ce sont des plantes qui ont voyagé à travers ces peuples, des symboliques qui ont voyagé aussi à travers ces peuples et leurs religions. C'est un peu tout ça l'outre-mer. C'est à la fois de l'Afrique, c'est à la fois de l'Asie, c'est à la fois de l'Océanie. Ce sont des systèmes de peuplement qui ne sont pas de même nature selon qu'on est du côté de l'arc Caraïbe, selon qu'on est du côté de l'Océanie et de la Polynésie. Bref, c'est assez riche suffisamment pour qu'on en fasse un numéro.
Là, tout à fait, Jean-Luc. Et puis donc effectivement, là on rappelle, d'ailleurs vous l'avez rappelé à demi-mot, que ça touche à la fois l'Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique. Donc c'est quand même tout à fait énorme. Alors François Le Tourneux, vous êtes le président du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc de ce qu'on appelle l'UICN. D'abord bonjour à vous, parce que je vois que vous êtes déjà en pleine lecture. Hein. C'est...
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Et donc François, là aussi, votre travail, donc par rapport à cet outre-mer qui est quand même extrêmement vaste, on le rappelle, 10 millions de kilomètres carrés, donc ce qui nous fait la deuxième plus grande surface maritime globale, enfin du monde. Comment on fait ? Je veux dire, quel est effectivement votre rôle à l'UICN ?
Dès qu'on regarde la question de la responsabilité de la France sur la biodiversité mondiale, on est obligé de constater que ce n'est pas en métropole que ça se passe. En métropole, on est en Europe, on est dans un milieu naturel qui est répandu sur tout le... Enfin, qui est un ensemble de milieux naturels qui sont répandus sur tout le... Sur tout le continent, c'est bien outre-mer que notre responsabilité mondiale est forte, parce que l'outre-mer, c'est essentiellement des îles. Et dans ces îles, dans chacune de ces îles, il y a une diversité biologique exceptionnelle, spécifique, qui est liée à cette nature insulaire. Et puis c'est la mer dont on vient de parler. Les grands problèmes de la biodiversité mondiale actuellement, c'est en mer et pour la France, dans l'outre-mer.
Alors, vous savez aussi que nous poursuivons cette série encore pendant quelques semaines avec Jean-Marie Pelt sur les religions du monde et l'écologie. Donc, dans quelques instants, Jean-Marie Pelt va nous parler du bouddhisme. Et on va commencer en musique tout à fait donc tranquillement avec Thérèse Moncal. Nous voici Douce Lumière.
Ma douce lumière, tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Toi, dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques, je te sens, tu es là. Je m'agrippe à ton corps imaginatif. Oh, l'embre et la mêle, tamborero, paillette, oro, papa, paillette. S'explique pas, non. Toi, dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques comme un rêve qui prend fin. Je te veux des visites, cela me déchire. Oh, l'embre et la
Pa, 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 yeah, oh, oh, yeah, oh, oh. musica, noviembre, la tamborero, payacoro, papaparero.
Il était là, il patientait tranquillement jusqu'à la fin du disque. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va parler du bouddhisme aujourd'hui parce que nous poursuivons notre voyage dans le monde de la nature et des religions. Et après les Indiens, parlons du bouddhisme. Philosophie ou religion ?
Oui, on ne va pas trancher, on va laisser le débat ouvert. Vous savez, les Orientaux disent, les Chinois surtout, pourquoi trancher une question quand ce n'est pas absolument nécessaire ?
C'est vrai.
Parce qu'on risque de se faire des ennemis, c'est ceux qui seront minoritaires. Bon, voilà. On va faire pareil.
D'accord. Question suivante.
Alors, le bouddhisme, ce n'est pas un panthéisme comme l'animisme ou les Indiens où tout est Dieu. Mais ce n'est pas non plus un théocentrisme où Dieu est au centre de tout, comme dans les grandes religions monothéistes. Oui. C'est entre les deux. C'est entre les deux et c'est une tradition où l'homme est investi d'une forte responsabilité de compassion et de protection par rapport à la nature, mais sans faire intervenir un dieu. Donc c'est un mi-chemin entre les religions anciennes et les grandes religions constituées. Mmh. Et ce bouddhisme est aussi convaincu qu'il y a des interrelations extrêmement étroites entre tous les êtres qui forment la Terre et même le cosmos. C'est une religion très cosmique et c'est une intuition qui est très écologique parce qu'il faut parfois rappeler que l'écologie, c'est la science des interdépendances entre tous les êtres vivants. Et le bouddhiste a ce sentiment très fort d'interdépendance et il y a un vœu que font les moines zen, les moines bouddhistes, il dit ceci, « Aussi nombreux que soient les êtres, je fais le vœu de les faire tous parvenir à la délivrance, parce qu'il y a cette fameuse idée du karma, où chaque être doit progresser vers une montée vers le fameux nirvana, où il sera libéré alors de toutes les pressions qui peuvent s'exercer sur lui, et le moine est celui qui doit être le passeur et qui doit faire monter. »
Donc il est au service des autres et tout le vivant.
Il est absolument celui qui est au service des autres et de tout le vivant. Et ceci a été merveilleusement dit par mon ami récemment décédé, Jacques Brosse,
oui.
Qui a été un homme admirable, dont on n'a pas parlé à la télévision. C'est dommage qu'on ne montre pas des gens très bien. Il y en a tant, je pourrais faire la liste. Oui. On pourrait faire des listes.
Mais la télé n'est pas faite pour ça.
Et on les enverrait à Drucker.
Voilà, absolument.
Drucker, on les mettrait sur le fauteuil rouge.
Oui.
C'est ça. Alors, cette idée est très forte de compassion à l'égard des êtres vivants. Et la compassion, c'est le partage du cœur, c'est le don du cœur. Il y a d'ailleurs une très belle phrase que j'aime beaucoup. Sagesse sans compassion n'engendre que de l'orgueil. Oui. Si vous marchez bien avec la tête et pas avec le cœur, ça ne marche pas. Mais compassion sans sagesse est aveugle, parce que là, vous avez des coups de cœur et vous ne réfléchissez pas. C'est une très belle phrase. Alors, dans la conséquence de tout ça...
Il n'y a pas de violence.
Non, et il y a un respect très profond de la vie. Par exemple, le bouddhisme n'accepte pas la chasse, le bouddhisme n'accepte pas la vivisection, parce que l'animal a une âme, et elle peut être l'âme d'un homme réincarné.
Selon le karma.
Selon le karma. Oui. Donc il n'est pas concevable que l'on puisse atteindre avec brutalité et violence un être vivant. Et puis toute la nature est ainsi considérée comme sacrée. Et le moine est d'habitude en méditation dehors. Mm-hmm. Dans le Tibet, ça se voit souvent. Et puis une pierre qui tombe dans le silence de sa méditation intérieure peut l'emmener à l'illumination. Il faut très peu de choses, un petit peu de beauté, un petit mouvement de la nature pour qu'il aille vers l'illumination. Alors il y a autre chose très importante du point de vue de l'écologie, c'est que pour diminuer la souffrance des hommes, il faut éteindre les désirs. L'homme souffre parce qu'il est totalement pris par des désirs qui ne peut pas satisfaire. Donc il est frustré à perpétuité.
Et pour satisfaire, dirigé par ses désirs.
Oui, et pour satisfaire ses désirs, alors il consomme, et donc il use la terre. Et donc il pompe les ressources de la terre. Alors le bouddhiste est celui qui pompe le moins. Sa consommation est extrêmement limitée. Et donc il ne détruit pas la nature. C'est encore un autre exemple où par rapport à la nature, il est dans une position d'un très grand respect. Alors est-ce que ça s'est concrétisé ?
Il doit y avoir très peu de publicitaires et de marketeurs qui sont bouddhistes.
Pas vraiment, non. Non, je ne pense pas que c'est un métier qui soit a priori compatible. Les Dalai Lama, dont on parle beaucoup, on a beaucoup d'estime pour le Dalai Lama naturellement, ont toujours eu le soin de protéger la nature. Le 13e, qui est le prédécesseur de l'actuel, qui est le 14e dans la lignée des Dalai Lama, a produit plusieurs textes qui sont des textes de protection et de conservation de la nature au Tibet, au point que des explorateurs et des voyageurs anglais, à l'époque où il y avait l'Angleterre en Inde, ont considéré que le Tibet, c'était en quelque sorte un petit paradis. Et c'est l'idée du Dalai Lama quand il a reçu le prix Nobel de la paix à Oslo en 89. Il a écrit ce texte très beau, en fait. « Mon rêve est que le plateau tibétain entier devienne un lieu de refuge libre où l'humanité et la nature pourraient vivre en paix dans un équilibre harmonieux. » C'est très beau.
Alors qu'on cherche à le formater, parce que font les Chinois actuellement.
Alors, il se fait exactement l'inverse. Oui. Et le Tibet est le lieu d'une confrontation violente et brutale, exactement comme la Palestine où Jésus est né et il a vécu, est le lieu des pires affrontements. Parce qu'il y a aussi dans l'âme humaine du mal, et qui s'exprime surtout là où il y avait beaucoup de bien. Parce que le mal court après le bien.
Et moi je me souviens aussi donc, d'une très belle métaphore chez les bouddhistes, qui disait que le monde était comme à l'image d'une grande roue, et que l'homme était un des barreaux de cette roue, mais pas plus. Il n'était pas au centre, il n'était pas le moyeu, ou il n'était pas le cercle, il était un des barreaux, comme les animaux sont un autre barreau, comme le végétal, comme les plantes le sont, etc.
C'est cette vision d'une interdépendance très fine où tout le monde joue sa partition à sa place et il n'y a pas ce concept de hiérarchie stricte et durable comme nous avons l'habitude de les voir en Occident. Par exemple, l'idée du décideur, que je déteste, n'existe pas dans le bouddhisme. Un bouddhique n'est pas décideur, il est partie prenante du monde dans lequel il vit et de la nature. Et alors, ce que je trouve très intéressant dans le bouddhisme, c'est l'idée de la mort. Quand on meurt, il n'y a pas de ciel, il y a un éveil à la fin qui est une sorte de paix qui va être la vôtre si vous êtes arrivé à la fin d'un long cycle de réincarnation. Et cette paix, ben, ça sera votre dissolution dans le grand tout. Vous rendez vos molécules. Et je trouve que c'est beau. Et que c'est beau pour les athées. J'ai des amis
athées.
C'est
assez apaisant, quoi, ça.
Oui, j'ai des amis athées. Je leur dis toujours, regardez un peu le bouddhisme, c'est très beau. C'est très apaisant.
Vous allez rendre vos molécules dans le grand tout.
C'est très apaisant et c'est très beau. Et je trouve qu'on peut comprendre pourquoi le bouddhisme est actuellement présent en France. Oui, je pense au Périgord, où il y a une maison bouddhique où on a recueilli tous les grands textes du bouddhisme tibétain. L'architecture est très belle, d'ailleurs. Et voilà une spiritualité qui me paraît d'une grande richesse par rapport au lien entre tous les êtres humains et non humains.
Merci à vous Jean-Marie Pelt. On vous retrouve dans Nature et Spiritualité, donc aux éditions Fayard, avec ce bouddhisme. Et puis nous continuerons à faire notre tour universel de ces religions. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
As usual, nothing new. But I expect there'll be no regrets. I can't find the time, I feel fine. I say I should. Like a cup.
Mais si, c'est une verte, puisqu'elle s'appelle Mickey Green. Mais bien sûr, on l'a fait exprès, c'était donc avec qui a interprété Shulda. Et c'est notre programmateur, Karl Basseur, qui a choisi ce disque. De la mer, de la mer, de la mer. Et un homme que vous connaissez bien. Tenez un petit extrait de cette chanson, un délice.
Oui, mes amis, j'ai largué tout pour l'archipel des Tuamotu. Où quel que soit le cours du franc, on offre son poisson vivant pour une poignée de riz blanc. Mon copain Jacques a mis les bouts, toute voile dehors et vent debout. Il chante dans les alizés quelques chansons dont le succès n'aura jamais su le briser. Prenez sa nouvelle adresse, il vit dans le vent sucré des îles nacrées. Et à sa nouvelle adresse, une fille s'amuse à rire de ses souvenirs.
Et bien sûr, l'ami Jacques de Pierre Perret, donc, nous a chanté Les Marquises dans son dernier album. Alors, l'outre-mer, à la fois, c'est un joli mot parce que ça signifie aller au-delà des mers, donc des terres ultramarines qui font toujours rêver. C'est aussi une couleur, hein, celle lapis-lazuli, donc cette pierre bleue extrêmement intense. Et donc, à la fois, on comprend bien, il y a l'image du marketing tropical, donc un bonheur sur terre au cœur des mers du Sud. Mais évidemment que c'est un peu plus complexe et que ça va quand même beaucoup plus loin. Alors, nous sommes partenaires cette semaine avec Géo, donc avec ce numéro consacré à la France d'outre-mer, donc Les Clés du Paradis, avec vous Jean-Luc Marty. Un dossier, je tiens à le signaler, qui a été donc dirigé par Aline Maume, aussi journaliste. Trois aspects, l'aspect maritime, l'aspect terrestre, l'aspect végétal. Juste peut-être un tout petit mot quand même de cette histoire, parce que les Français le savent pas. Enfin, on a donc ce deuxième plus vaste territoire maritime du globe, on le rappelle, 10 millions de kilomètres carrés. Mais ça vient donc de quelle époque, ça? Donc ces fameuses... ce sont des conquêtes.
Il y a une différence entre on va dire, les périodes de peuplement, notamment en ce qui concerne toute l'Océanie et la Polynésie, où on sait via les langues d'origine austronésienne que les gens venaient d'Asie du Sud-Est, et donc toute cette civilisation de la pirogue qui a amené effectivement à bord de ces bateaux les gens venant de là, qui sont un peu les ancêtres des Pascouans, finalement des Polynésiens, etc. Là, on a une catégorie de ce type-là. Après, il y a les grandes colonies, évidemment, que l'on connaît, qui font partie, malheureusement, de notre histoire. Mmh. Côté Caraïbes, il est vrai que Christophe Colomb, lorsqu'il débarque et qu'il amène effectivement sur la Guadeloupe, la Martinique, pour parler des Antilles françaises, davantage, mais lorsqu'il amène avec lui la canne à sucre, qui est quand même l'économie, j'allais dire, de la traite derrière, et qui va, là, puisqu'on parle de biodiversité, la canne, ça fait partie de ces plantes qui ont voyagé pour le meilleur et pour le pire. Là, ça n'a pas été vraiment pour le meilleur, c'est le moins que l'on puisse dire. Et que donc, tout, j'allais dire, ce peuplement sur l'arc caraïbe noir, venu effectivement de cette traite des rivages d'Afrique, après les Indiens, liquidé quand même, il n'y a pas d'autre mot non plus par les Espagnols, je pense aux Taïnos, aux Arawaks. Donc c'est vrai que cet outre-mer avait une mémoire avant la colonisation et avant les grands mouvements de déportation un petit peu comme ça d'êtres humains, notamment à travers la traite, qui était une mémoire indienne, amérindienne, amérindienne que l'on retrouve en Guyane avec les Wayana par exemple, bien ou les Mérillons. Voilà. Donc c'est vrai que cette histoire-là n'est pas une histoire à la gloire forcément de la France, bien qu'elle ait nourri à un moment, vous y faisiez je crois allusion tout à l'heure, un peu le côté pré-romantique, rousseauiste, qui allait ouvrir surtout ce romantisme allemand, la nature, le côté bienfaisant.
Bernardin Saint-Pierre.
Voilà, Bernardin de Saint-Pierre. Bon, ça existe, et c'est bien pour ça qu'on est en train de défendre, mais je veux dire, existe aussi toute cette histoire qu'il ne faut pas mésestimer. Pourquoi ? Parce qu'à travers ces populations venues d'ailleurs, c'est toute la mémoire aussi d'une biodiversité liée à cet ailleurs. Lorsque les Océaniens arrivent avec leurs pirogues chargées de bambous, chargées de cocotiers, ils amènent ça dans les îles, ils les plantent, et puis on se retrouve face à deux piliers qui, dans la mythologie aujourd'hui océanienne, jouent, mais qui au départ étaient là pour l'alimentation, pour la médecine. Lorsque les Noirs arrivent effectivement des côtes africaines, ils arrivent avec leur propre rapport à la biodiversité. Magique, les plantes sacrées, les bois sacrés, les forêts sacrées, toutes choses que l'on retrouve chez les Noirs marrons de Guyane aujourd'hui, même s'ils sont par rapport à leur paillage un petit peu au centre du débat. Mais il faut comprendre que la relation à la biodiversité, c'est un cycle. Tout à l'heure, vous parliez, je crois, dans l'interview avec Pelt, de l'interdépendance humaine. Oui. Mais il faut comprendre que la biodiversité s'inscrit dans un cycle qui est celui du végétal, de la pierre. D'abord, du végétal ensuite, de l'animal et de l'humain. Lorsqu'on fait référence à toutes ces populations d'outre-mer d'origine africaine, on est dans ce cycle-là. Et il y a une interdépendance par rapport à ce cycle-là. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, qu'on ne souligne pas assez. C'est ce que je veux dire quand je dis, fait pas être trop ethnocentré par rapport à tout ça.
Alors François Le Tourneux, y a un mot sur lequel j'ai envie de rebondir de Jean-Luc Marty, évidemment, c'est le mot de biodiversité, puisque c'est vraiment votre travail au quotidien. Qu'est-ce que l'on appelle les hotspots, autrement dit les points chauds de la biodiversité, parce que donc, grâce à tous ces lieux, on en a 4 sur 34 points, il paraît, de hotspots dans le monde. Alors qu'est-ce que c'est un hotspot, s'il vous plaît?
Un hotspot, c'est une partie du globe dans laquelle il y a la concentration, le regroupement d'un très grand nombre d'espèces qui n'existent que là.
Oui.
Alors, effectivement...
C'est une espèce de sanctuaire, on va dire, c'est
non,
ça
non, non, un hotspot n'est pas nécessairement protégé.
D'accord.
C'est une constatation. Un hotspot, c'est une région dans laquelle on constate qu'il y a une diversité biologique, une rareté biologique tout à fait remarquable. C'est vrai que la France est présente à travers ses territoires d'outre-mer et ses départements d'outre-mer dans 4 des hotspots que l'UICN, l'Union mondiale pour la nature, a repéré sur l'ensemble du globe. Mmh. Dans chacune des îles qui constituent la Polynésie, lorsqu'elles sont un peu éloignées les unes des autres, s'est spécialisée une faune, oui, au cours des dizaines de millénaires qui n'existe que là. Dont la disparition prive la Terre d'une partie de son patrimoine. L'échenilleur de la Réunion est un petit oiseau qui n'existe plus que dans un petit bois qu'on appelle la roche écrite. Il en reste une centaine de couples. Le bois de la roche écrite a brûlé il y a quelques années, en partie. Et on a eu peur, parce que si cette forêt avait brûlé totalement, nous n'aurions plus d'échenilleurs du tout. Cet oiseau n'existerait plus sur la surface du globe. Voilà ce que c'est que des hotspots.
Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour. On va aller à la fois en Guyane, mais aussi auparavant. On va aller sur l'île de Crozet. Très honnêtement, je ne savais pas du tout où ça se situait. Et donc, en ligne, on va retrouver un homme qui s'appelle Vincent Lecomte. Vincent Lecomte, il est thésard au laboratoire du CNRS de Chizay. Bon, ça, on sait où c'est dans les Deux-Sèvres. Et donc là, il est vraiment donc loin de tout sur la base Alfred Fort de l'île de la Possession, donc à Crozet. On se retrouve quand même, vous allez voir, entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique. Et donc, c'est une interview qu'on a réalisée avec Jean-Baptiste Audibert. On va peut-être commencer d'abord, effectivement, Vincent Lecomte, par une description de ce lieu.
Effectivement, nous travaillons dans une base qui est située sur une île à 5000 km de toute terre. Et une image qui vraiment me frappe, c'est l'image de notre arrivée. Lorsque nous sommes arrivés sur Crevet, l'île a émergé des brumes au dernier moment, à 7 heures du matin, et on s'est tous trouvés, les thésards de Chizé arrivant sur cette île, face à face avec un paysage vraiment semi-désertique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se figurer un paysage sans arbres, sans arbustes, sans même de fleurs visibles colorées, c'est véritablement presque lunaire. Et on a en quelque sorte un paradoxe, c'est qu'on était face à un paysage dont la biodiversité, au premier abord, est très austère, très pauvre. Il faut se figurer un paysage, je disais, où il y a essentiellement des volcans fossiles, dont les pentes rougeoyantes sont couvertes de landes à Black Gnome, avec quelques ponctuations colorées, la Sena, les rares choux de Kerguelen, qui sont des espèces de grosses plantes à très grosses racines riches en vitamine C, dans les vallées humides et verdoyantes, des mousses, qui forment des tapis extrêmement fragiles, des joncs, et sur les crêtes, c'est-à-dire au-delà de 200 mètres d'altitude, des sols finalement complètement dédunés. Quand on se promène dans ces zones, on va simplement marcher sur des cailloux où végètent quelques touffes d'agrostis, des coussinets d'azorelles, tandis qu'au-delà de 700 mètres, finalement, il n'y a plus rien, si ce n'est les derniers pionniers de ces zones très pauvres en azote, les lichens. Donc au premier abord, c'est vraiment une biodiversité tout simplement pauvre, mais évidemment, la pauvreté est un leurre, et c'est une très grande richesse qui s'est révélée à nous, lorsque nous avons appris que toutes ces plantes étaient très rares, puisque endémiques des îles subantarctiques.
Alors Vincent Lecomte, donc ces îles, bien sûr, font partie hein, de cet outre-mer. On a bien compris que vous viviez dans un petit milieu, donc c'est quand même sûrement assez dur, c'est un petit cercle. Et puis si vous êtes là, c'est aussi pour nous parler donc, des oiseaux, dont un quand même qui est extrêmement cher à Baudelaire.
Il faut se figurer 20 millions d'oiseaux marins nicheurs, rien que sur l'archipel de Crevet, dont plusieurs millions d'oiseaux marins nicheurs, dans les différentes criques de l'île de la Possession. C'est vraiment une île étonnante puisqu'elle est perdue au milieu de l'océan Antarctique et autant dire que c'est un point de repère extraordinaire pour les pétrels plongeurs, les orques qui sillonnent les côtes crozetiennes à l'affût d'un manchot blessé, les squats, les pétrels géants qui sont des charognards des plages, on peut dire ça comme ceci, et bien sûr les manchots royaux, plus d'un million de couples nous avons en bas de la base, une fameuse manchotière qui compte déjà plusieurs milliers de couples, les gorfous, près de 3 millions de couples, notamment les gorfous macaroni, et le grand albatros qui niche sur l'île de Crevet, qui est l'objet de notre étude. Alors je dirais le grand albatros, c'est ce qu'on pourrait appeler le B-52 des mers. C'est vraiment un oiseau qui est fascinant, un oiseau qui pèse 12 kilos, d'une envergure de 3,50 m, et qui, en termes de longévité, va pouvoir vivre un peu comme nous, c'est-à-dire jusqu'à 70-80 ans, en faisant un poussin tous les deux ans. Alors, c'est vraiment un oiseau extrêmement étonnant parce qu'il a des mœurs finalement qui rappellent les nôtres. Il est fidèle à son partenaire et certains mâles qui sont arrivés au mois de novembre ont attendu leur femelle pendant plusieurs semaines, leur femelle, ils l'ont reconnue au cri et ils y sont fidèles depuis plusieurs dizaines d'années pour certains. Si vous voulez, j'ai un petit son à vous faire entendre, donc je vous le passe et je vous expliquerai après. Donc ce bruit que vous entendez en arrière-plan, c'est tout simplement un bruit qui nous est familier à nous sur la base et à nous ornithologues sur Pointe-Basse. Ce sont les parades nuptiales d'albatros. C'est-à-dire lorsque le mâle a trouvé sa femelle, il va la reconnaître en émettant une série de bruits, de claquements de bec, de gloussements de gorge. Cela peut durer plusieurs minutes, parfois une demi-heure. Et c'est à l'issue de cette reconnaissance que le mâle et la femelle vont s'accoupler et entamer une longue reproduction qui va durer presque 9 mois.
Et l'écosystème dans lequel vous évoluez, Vincent Lecomte, est l'objet de différentes menaces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est ?
Oui, hélas, l'écosystème que nous étudions est menacé de toutes parts, de par l'arrivée précoce des hommes sur ces îles. Alors on dit souvent qu'il y a deux choses qui poursuivent l'homme sous ces latitudes. La première chose, c'est la soif d'aventure, et la deuxième chose, ce sont les rats. Et c'est une façon de dire que l'homme ne vient jamais seul, et souvent, il vient mal accompagné. C'est-à-dire qu'avant de descendre du bateau, nous, qui nous a laissé là au mois de novembre, nous avons subi des tests pour savoir si nous transportions avec nous des espèces invasives, Et oui, nous en transportions sous nos crampons de bottes, dans nos velcros de guêtres, dans nos fermetures équerres. Il y avait des morceaux de graines et des morceaux de plantes qui, une fois à terre, peuvent se développer et provoquer ce qu'on appelle des invasions biologiques. Ainsi, sur la base d'Alfred Fort, la végétation est complètement méconnaissable. C'est vraiment un paysage qui est proche de la Bretagne. Comme nous sommes arrivés, nous avons été frappés par le rose pétard de la Bruyère, le vert haut de l'Ajon, le vert tendre du Pâturin, le jaune soleil des pissenlits, toutes ces plantes qui n'ont rien à faire ici et qui ont été apportées par les pionniers et par les scientifiques, bien involontairement, bien sûr. La deuxième grave menace qui pèse sur cet écosystème, c'est la menace, hélas, liée à la pêche. Les albatros souffrent considérablement de la pêche à la légine dans les mers subantarctiques, puisque maintenant de nombreux bateaux pirates sillonnent la zone pour pêcher ce poisson à forte valeur commerciale. Et les appâts attirent les albatros qui sont pris au piège par les hameçons. Et c'est vraiment une peine pour nous, ornithologues, de trouver chaque jour sur le champ aux albatros des albatros avec un hameçon dans le bec, incapable de se nourrir.
Merci à vous, Vincent Lecomte, donc depuis l'île de Crozet. François Letourneux, peut-être une petite histoire aussi sur Crozet. Il y a aussi d'ailleurs une image tout à fait intéressante, Jean-Luc, pardonnez-moi, dans Géo, où là on ne voit pas l'albatros, on voit un pétrel.
Le pétrel, ouais. Pétrel géant, non, mais ça c'est toute une partie, on a parlé de ces paradis minéraux, effectivement, ouais. Où là, à l'inverse, on n'est pas dans le lapis lazuli, là, on n'est pas
non,
dans le.
Non, non.
On est un peu sur les graves de Saint-Pierre-et-Miquelon, là, c'est un peu plus rude, j'allais dire, comme ambiance et comme atmosphère. Moi, ça me plaît bien en tant que Breton, mais ouais. C'est vrai que c'est un autre outre-mer là, mais
lorsque l'on parle du grave, en fait, c'est la grève, hein, c'est ça.
Oui, la grève, c'est le mot déformé. C'est le mot, en fait, pour dire grève, c'est là où les morutiers faisaient sécher à l'époque effectivement le poisson sur ces graves, comme on dit avec
alors,
l'accent.
Alors François sur cette île de Crozet, François Letourneux.
Une première anecdote, Crozet, c'est une île. Enfin, dans toutes ces îles des terres australes, il y a eu des tentatives à plusieurs reprises pour développer des utilisations industrielles du territoire. Et notamment, on a voulu, au 19e siècle, exploiter la graisse des éléphants de mer. Donc on a fait fondre des éléphants de mer pour récupérer leur graisse. Et comme il n'y a absolument pas de bois sur ces îles, on a capturé des manchots, on les a pressés vivants dans des presses mécaniques.
Comment
et avec le combustible ainsi constitué, on a chauffé les éléphants de mer pour faire fondre leur graisse. On le voit à l'époque, cette capture directe était gravement responsable de l'appauvrissement du milieu. Mais comme ça a été dit dans le reportage qui vient de précéder, ce qui se passe aujourd'hui sur ces îles, c'est surtout la concurrence avec des espèces introduites volontairement ou involontairement. Et ça, ces îles, elles avaient l'habitude, leur végétation et leur faune s'étaient développées dans la tranquillité. La concurrence s'était établie une fois pour toutes. Il n'y avait pas de concurrent, donc les oiseaux n'ont pas d'ailes. Le cagou de Nouvelle-Calédonie n'a pas d'ailes. Le dodo, le dronte de l'île Maurice, c'était un gros pigeon qui n'avait rien pour manger. Dès qu'on a introduit des chiens et des chasseurs sur l'île Maurice et sur la Réunion, les oiseaux sans ailes qui y vivaient ont été détruits en quelques dizaines d'années. Et là, sur les îles, il se trouve que tous les oiseaux de mer nichent à terre. Ils font beaucoup de choses en mer, mais ils ne peuvent pas pondre leurs œufs pour des raisons que vous comprendrez bien. Donc, ils viennent nidifier au sol, souvent dans des terriers. Et le simple fait, de la part des scientifiques, quelquefois d'ailleurs, le simple fait d'avoir introduit des lapins qui installent leurs terriers dans les terriers des pétrels, fait que les concurrences entre les rats noirs, les lapins, les vaches introduites quelquefois par les scientifiques, mais souvent aussi par les marins, ça déséquilibre dans des conditions extrêmement graves les écosystème insulaire de ces petites îles perdues dans un climat difficile.
Mais là, c'est pas Dieu vaut vache cochon couvé, mais en tout cas, c'est au moins la perte des couvées. Quoi.
Ouais, oui, ouais, ouais, voilà. Et...
Non, mais c'est drôlement effectivement intéressant de voir qu'une fois de plus, hein, l'écologie, c'est aussi donc la science des systèmes, et donc il y a ces différents équilibres qui sont là, qui sont extrêmement fragiles. Alors, parler de l'outre-mer, on ne va pas cliquer sur toutes les cases, c'est-à-dire aussi bien la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Wallis et Futuna. J'aimerais, Jean-Luc Marty, que l'on parle, parce que là c'est quand même aussi extrêmement important, de la Nouvelle-Calédonie. J'y reviendrai d'ailleurs dans une autre émission. On fera un sujet, je dirais, plus approfondi. Mais dans ce numéro de Géo, alors là, c'est très beau. Parce que Pascal Alquier, votre journaliste, parle aussi du calendrier des baleines. Qu'est-ce que c'est, le calendrier des baleines ?
Oui, alors là, on est dans le monde kanak, plongeur. Ouais. Kanak et plongeur, mais c'est vrai que... on est dans le sud de Grande-Terre, en fait, à l'île d'Ouin. Mm-hmm. O-U-E-N.
O-U-E-N, oui.
Très exactement.
Comme Saint-Ouen, quoi.
Qui est un des plus grands, d'ailleurs, lagons du monde. Je crois qu'il doit faire dans les 23-24 000 km². Et il se trouve que là, lorsque vous parlez de calendrier annuel, en fait, les cétacés, les baleines à bosse, transitent effectivement au large de l'île à un moment. Ce qui veut dire pour les canaques insulaires qui vivent là, qu'au moment où elles transitent, c'est le moment de labourer, de défricher, de mettre en place les champs. Pourquoi ? Parce que les cétacés, je veux dire, frappent de leur queue l'océan, la surface de l'océan, réveillent l'igname et font germer l'igname, qui est la plante sacrée, j'allais dire, des canaques, qui n'est absolument pas dédiée à l'alimentation, qui est plutôt que l'on offre, etc. Donc c'est vrai que c'est... Là, on rentre dans la magie aussi, quoi, de la biodiversité. C'est un peu ce qu'on racontait au début aussi de l'émission dans ce rapport de l'homme au sacré. Hein. Là, on est vraiment dans une analyse en quoi, tout d'un coup, la nature informe, j'allais dire, de la vie des populations locales.
C'est un calendrier naturel.
C'est un calendrier naturel. Lorsque vous entendez, j'allais dire, la queue des cétacés, c'est au mois d'août, je crois, que la grande transhumance doit se faire, hein, je crois, à peu près dans ces eaux-là. Lorsque vous entendez ce bruit, bah voilà, l'igname se met à germer. Alors, c'est là où on rentre dans ce... Voilà, c'est un rapport très, très particulier.
Et alors, on a aussi bien sûr le tourisme, parce que ce qu'on appelle le whale watching, c'est-à-dire l'observation des baleines par les touristes, c'est vrai que c'est un rapport extrêmement important, on va dire, pour les charters locaux, près de 50%, mais en même temps, là aussi, on a un dérèglement, quoi, d'aller voir ces baleines viennent, c'est jamais très très simple, on est toujours en compétition, toujours en concurrence avec l'être humain. Donc,
oui, c'est les problèmes de surexploitation des sites, on voit bien les problèmes aux Galapagos aujourd'hui, c'est vrai que ça, c'est au niveau du, on parle de tourisme responsable, c'est un mot un peu à la mode, bon, mais allons-y, je veux dire, dans ces cas-là, par rapport à l'environnement, il y a énormément de choses à faire, à commencer par chez nous. Je parle de notre outre-mer, sans souci de possession de ma part, l'outre-mer au sens ultramarin du terme. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, j'en profite, parce qu'on a un peu des gens du Conservatoire du Littoral avec nous. Je pense que il y a quand même un hommage à rendre à tous ces gens qui aujourd'hui explorent. Parce qu'on dit l'environnement, effectivement, versant catastrophe, ce qu'on entend à longueur de temps et à longueur de colonne, c'est vrai que le concept de finitude de la Terre, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle.
On veut dire qu'on est dans un monde clos. Voilà.
Depuis quelques années, est apparu. Ça n'était absolument pas ça. Géo, il y a 30 ans, quand on est arrivé, on était déjà intéressé par tout ça. On se rendait compte que ce qui se passait en Amazonie pouvait avoir des conséquences chez nous. C'était déjà assez nouveau et innovant comme façon de réfléchir. Aujourd'hui, j'allais dire, le versant positif de cette prise de conscience, c'est qu'on n'a jamais autant exploré, jamais autant aventurier, jamais. Moi, de ma vie, j'ai 57 ans dans pas longtemps, là. Je suis entre deux âges, comme on dit. C'est la première fois que j'ai l'impression de revivre un petit peu un siècle d'aventure, quoi. J'ai l'impression que le 21e, ça va être le siècle de la Terre. On a eu le siècle des Lumières à un moment et on a le siècle de la Terre. Et que ça, finalement, ça redonne un coup de fouet, ça rebooste un petit peu l'esprit aventureux. Mais j'allais dire, dans un sens qui est celui, effectivement, de la recherche, encore une fois, de la collecte, de les gens partent explorer le fond des océans, les plaques tectoniques, on explore avec l'expédition Tara, c'est le réchauffement climatique, les banquises. Vous avez un Franceschi qui part avec sa boudeuse explorer les peuples de l'eau autour du monde. Enfin, peu importe après ce qu'on en pense, il n'empêche que ça n'a jamais autant bougé autour de la Terre dans un souci. Et c'est vrai que le travail fait par la conservation du littoral est un travail, j'allais dire, à ce niveau-là, dont on mesure aujourd'hui l'importance et les conséquences, qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire passée.
Voilà, vous faites plaisir à voir sur le tourneux, parce que...
Oui, c'est pas démagogue de ma part, parce que je suis pas très démagogique de tempérament.
C'est juste qu'il a été l'ancien président du Conservatoire du Littoral.
C'est pour ça que je me permets de le dire, parce que c'est vrai que Conservatoire du Littoral, ça sonne un peu technocratique. Alors ça sonnait technocratique, dans pas longtemps ça va sonner peut-être un peu plus branché, tant mieux pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est dans le bon sens, quoi. Voilà. Donc, je voulais quand même souligner ça, en tant que journaliste, simplement passeur d'informations, ce que nous racontons dans nos journaux viennent, j'allais dire, de ces gens-là.
Et avec un beau boulot, bien sûr, réservation. Toujours pour rester sur la Nouvelle-Calédonie, là ça peut être le versus, la version très positive, mais quand même, elle est quand même bien là, François Le Tourneux. Certes, on souhaite inscrire les deux tiers de ce lagon sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, mais on a les mines de nickel et de cobalt, bon, qui sont extrêmement importantes. On a un plateau qui s'appelle le plateau de Goro, et là il y a encore évidemment quelque chose d'extrêmement fort qui est en train de se produire. Alors, dans tous les cas de figure, les miniers vont vous faire évidemment de vous expliquer qu'ils sont dans du développement durable, qui font extrêmement attention. Où est-ce que l'on en est lorsque l'on va quand même là-bas et que l'on regarde un petit peu ce qui se passe? Quand on se balade, on découvre quand même les cicatrices provoquées par l'exploitation de cet or vert, donc le nickel. Les flancs de montagne des massifs miniers sont déforestés, érodés, on ne voit plus que la latérite. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que entre l'homme, une fois de plus, il ne s'agit pas d'aller culpabiliser, bon, c'est pas ça le problème, mais qu'est-ce que l'on fait entre ce développement quand même complètement dingue, une demande de plus en plus forte, et puis aussi on cherche à préserver la biodiversité, quoi.
Bon, on n'est pas, on est évidemment.
Ça, c'est le paquet cadeau sur la table.
Non,
vous
non, mais on est. Je pense que personne ne considère que on va arrêter du jour au lendemain d'exploiter des métaux dont on a besoin pour un certain nombre d'usages d'usages humains. Et on est aussi conscient que on ne peut plus le faire comme on le faisait avant. Alors. C'est vrai qu'il y a un projet Goronickel en Nouvelle-Calédonie qui s'ajoute à beaucoup d'exploitations, parce que quand même l'île entière a été modelée par l'exploitation du nickel. Alors ça n'a pas que des effets complètement négatifs sur la biodiversité, ça a mis en évidence des plantes pionnières très liées à la présence du nickel qui sont pas inintéressantes, dont le nickel et le cobalt sont théoriquement mortels pour les plantes, mais il y a des plantes qui se sont développées sur les anciennes exploitations et qui sont au contraire en quelque sorte spécialisées dans le recyclage du nickel et du cobalt. Et c'est pas inintéressant pour la science et pour la recherche. Mais dans le cas de nouvelles exploitations, il faut que l'étude d'impact soit correctement faite et il faut que les compensations nécessaires soient apportées. Et puis si c'est pas tolérable, ça doit pas être toléré. Nous nous réjouissons beaucoup que le président de la République ait fait obstacle à l'ouverture d'une énorme mine d'or en Guyane.
Absolument, la mine d'or.
Alors, IAMGOLD sur la montagne de Caux était sur les rails. Nous ne pouvions pas accepter cette exploitation.
On ne sait pas si c'était un bon ou un mauvais projet, mais en tout cas, c'est sûr qu'il était au mauvais endroit. Ça,
alors
c'est
d'abord,
clair.
Il n'était pas au très bon endroit. Et puis ensuite, surtout, il y a un énorme problème en Guyane qui est bien plus important qu'IAMGOLD, c'est l'orpaillage clandestin.
Ouais.
Et il n'y a pas de signe convaincant qu'on est en train de mettre fin à l'orpaillage clandestin. Si la discussion était « travaillons ensemble à un bon projet minier bien localisé », comme alternative à leur paillage clandestin, je crois que tous les protecteurs de la nature seraient d'accord pour discuter de façon concrète d'un projet comme ça. Mais si on nous dit on peut pas faire grand-chose sur leur paillage clandestin, donc il va continuer, et en même temps on va vous balancer des projets qui en plus sont dans des zones... ce sont dans des zones qui ont une grande valeur écologique, il faut quand même le dire, évidemment, ça paraît absolument pas acceptable.
D'ailleurs, effectivement, on voit une concentration de mercure dans les cheveux des Guyanais dont parlait tout à l'heure Jean-Luc Marty, donc, qui habitent là-bas, qui est extrêmement, extrêmement importante. Alors, ce que je vous propose, d'abord, je voudrais aussi saluer le boulot qu'ont fait les 33 associations guyanaises, les Verts de Guyane aussi, donc par rapport à ce projet, parce que vraiment, sur place, il faut sacrément résister,
hein, c'est
de la bagarre.
Ah oui,
c'est du très lourd. Ça rigole pas. Et nous avons Philippe Gaucher en ligne qui est en Guyane, qui est le directeur technique des stations des Nourag, donc stations du CNRS, donc implantées au cœur de la forêt tropicale. Et l'objet en fait d'études, c'est la forêt tropicale. Qu'est-ce que l'on y fait, Philippe Gaucher?
Oui, on y fait beaucoup de choses. Hein. Notamment, on y travaille de plus en plus sur l'aspect climatique. On a des relevés permanents aussi de résines réticulaires, hein, qui sont des résines qui sont dégagées par les arbres. Et qui sont une signature des arbres, en fait, et qui sont collectés en continu. Et puis, parallèlement à ça, on y fait des études peut-être un petit peu plus classiques de relations, effectivement, plantes-animaux. Alors, sur les chauves-souris, le rôle des chauves-souris dans la pollinisation. Actuellement, il y a des études sur les oiseaux, notamment sur la diversité génétique des oiseaux à travers l'Amazonie, et en particulier sur le plateau des Guyanes.
Alors, quand on parle vraiment de biodiversité, je veux dire qu'on est, en plein dedans, hein, parce que j'ai presque dire que notre France est quand même une belle pauvreté à côté, quand je dis ça évidemment entre guillemets, parce qu'il y a quand même des choses tout à fait intéressantes, mais je veux dire que ça foisonne de partout chez vous.
Oui, je vais prendre un exemple classique. Hein, si on prend un hectare de forêt en Guyane, on a entre 160 et 220 espèces différentes d'arbres, alors que dans l'Europe, de l'Afrique du Nord à la Sibérie, on en a moins d'une centaine. Quoi. Donc sur un hectare, on a déjà plus du double d'espèces que l'on peut rencontrer sur l'Europe grande, dirons-nous, en termes d'arbres, d'espèces d'arbres. Et parallèlement à ça, sur cet hectare, il y a entre 400 et 600 tiges, hein, c'est-à-dire troncs de plus de 10 cm de diamètre. Ce qui veut dire que si vous avez 220 espèces, les deux arbres l'un à côté de l'autre seront d'espèces différentes, très probablement. Je donne une autre anecdote qui est purement personnelle. Hein. Moi, j'y passe vraiment beaucoup de temps dans cette forêt. Je n'y suis jamais allé sans voir quelque chose que j'avais jamais vu avant. Ouais. Que ce soit une plante, un insecte, une fleur et que je reverrai peut-être jamais.
Oui. Et oui.
L'autre pendant.
Alors, il y a ce travail que vous effectuez aussi, qu'effectuent bien sûr vos collègues sur la canopée, c'est-à-dire vraiment sur le sommet des arbres. Et là, c'est là aussi que ça foisonne énormément. Donc, on récupère à la fois des insectes, on voit comment les arbres réagissent. On parle très souvent, vous savez, on dit, c'est peut-être notre pharmacie du futur que l'on va pouvoir trouver là. Quelles sont les études que l'on fait actuellement sur cette canopée ?
Alors, sur la canopée proprement dite, nous, on est en train d'installer un appareil qui s'appelle le COPAS, hein, Canopy Operational Permanent Access System, qui devrait être opérationnel cette année et qui va permettre d'avoir un accès vraiment à toute l'épaisseur de la forêt sur plus d'un hectare de surface. Actuellement, ce qui est fait sur la canopée, c'est vraiment des choses, des problèmes plutôt atmosphériques et des échanges d'énergie et de matière. Et puis, tout ce qui est problèmes atmosphériques, notamment la formation de ces fameux brouillards qui a beaucoup surpris nos collègues allemands qui ne connaissaient pas ce phénomène sous la forêt de basse altitude. Mmh. Et effectivement, on commence déjà à regarder un petit peu ce que produisent comme molécules pour leur propre défense les arbres.
Philippe Gaucher, vous êtes aussi un spécialiste des grenouilles. Alors bon, certes, le pélodite ponctué, la rainette, c'est très bien, mais qu'est-ce que l'on rencontre comme batracien, donc là chez vous en Guyane ?
C'est extrêmement copieux. Hein. Le nombre total de batraciens n'est pas vraiment connu parce qu'il y a un certain nombre d'espèces qui ne sont toujours pas décrites. Alors, soit qu'elles soient nouvelles pour la science, soit qu'elles soient, en tout cas, elles sont nouvelles pour la Guyane. Moi, personnellement, je travaille sur des grenouilles qui vivent dans les arbres et qui ne descendent jamais au sol et qui ont des modes de reproduction tout à fait étonnants, du style, par exemple, que la femelle pond dans des tout petits trous d'eau qui se trouvent au sommet des arbres, à 30 mètres de haut, et la femelle est obligée de rester à proximité des têtards, de manière à tous les deux jours descendre dans ce petit trou d'eau, les têtards viennent la mordiller, la solliciter, et pond des œufs pour pouvoir les nourrir. Les têtards ne se nourrissent que de ce type de nourriture, ils sont incapables de manger autre chose. Voilà un exemple de spécialisation tout à fait poussée à l'extrême.
Et pour notre culture personnelle, à quel doudou répondent ces grenouilles arboricoles ?
Alors, il y en a celle-là, moi je l'appelle personnellement la métronome, parce qu'elle a une autre caractéristique pour toutes les personnes qui viennent en Guyane et qui dorment en forêt de nuit.
Oui.
C'est vraiment un métronome, hein, ça fait une note toutes les secondes, et elle peut chanter jusqu'à 30 000 fois par nuit.
Ah oui.
Je peux vous dire que si vous mettez votre hamac sous un arbre où il y a une métronome, vous n'allez pas être déçu.
Vous haïssez les batraciens jusqu'à la fin de vos jours. Oui, je comprends bien. D'accord.
Tout à fait ça.
Merci à vous, donc, Philippe Gaucher. Donc, faites attention. Hein, si vous rencontrez une métronome, faites attention à elle. On va fêter quand même, François Letourneux, donc, la naissance de ce nouveau parc national de Guyane. Hein, c'était au mois de février dernier. 34 000 km². Ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus vaste que les 8 autres parcs nationaux qui existent. Mais c'est bien que ça existe aujourd'hui. Alors, maintenant, pour contrôler les choses, ça ne va pas être très, très simple. Hein, mais il est quand même. Hein.
Oui, parce que ce que le reportage précédent a dit de manière tout à fait intéressante, c'est qu'on connaît 1 800 000 espèces, on pense qu'il y en a 15 millions.
Oui,
donc,
c'est
pas la peine d'attendre de les connaître toutes, puisqu'elles sont en train de disparaître à toute vitesse, pour lancer les programmes de protection.
Ouais.
En Guyane, on connaît pas tout, on découvre des choses tous les jours, donc protégeons, on continuera longtemps de découvrir des choses. Si la forêt guyanaise était, comme c'est le cas dans de nombreuses régions du Brésil, si la forêt guyanaise était rasée pour faire des agricarburants, eh ben, il n'y a aucune chance qu'on découvre des espèces qui, de toutes les façons, disparaîtront avant qu'on connaisse leur nom.
Très bien. Nous, effectivement, sur les agrocarburants, on a déjà dit pas mal de choses et on vous rejoint. Juste avant de se quitter, Jean-Luc Marty, parce qu'il y a énormément de photos, on s'en doute, dans Géo et d'articles, le petit coin de rêve en Outre-mer où vous aimeriez aller ?
Moi, j'ai un vieux rêve que j'ai failli faire un jour grâce à un voilier sud-africain qui est de partir de Madagascar, aller plonger sur les îles Éparses. C'est vrai qu'on est parti avec le très grand, là, les 10 millions de kilomètres carrés. On finit avec le très petit, là, moins de 30 mètres carrés. Et c'est vrai qu'aller voir, je sais pas, les 13 000 tortues de mer tout d'un coup sur la dune derrière les joncs ou plonger au-dessus de l'atoll de Bassa India, ça me tente pas mal.
Ouais, écoutez, ce sont 5 petites pépites qui sont perdues dans l'océan Indien. Moi, je ne les connaissais pas. Au large du Mozambique, c'est absolument extraordinaire. Merci beaucoup à vous deux. Et bien sûr, vous retrouvez tout ceci, enfin tous ces reportages dans le Géo de ce mois de février. Cette émission a été réalisée par Anne Wenfeld, assistée de Jean-Christophe Pinaza et de Jean-Baptiste Audibert. À la technique, il y avait Ludovic Asselot et Claudine Lapersonne. Beaucoup de sites, hein, beaucoup de liens sur le site de CO2, mon amour. Anne Gouzon donc, nous a préparé tout ça. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. Possibilité pour vous de réécouter l'émission pendant 4 semaines, de l'enregistrer pendant une semaine, ou bien dans la nuit de dimanche à lundi dans l'émission donc, de Brigitte Kernel. Vous pouvez aussi donc la réécouter. La semaine prochaine, et ben là, très magazine aussi, vous allez voir des sujets d'ailleurs totalement différents. Avec Pelt, nous parlerons donc du taoïsme, nous parlerons de voitures à air comprimées, nous compterons notre CO2 avec Elisabeth Laville, et sans doute nous parlerons aussi des loups et des ours en Europe. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end en Outre-mer ou bien en direction du ski. Portez-vous bien, prenez le soleil, et dans quelques instants, ce sera le zapping de France Inter avec Mathias Degel, qui reçoit Jean-François et Axel Kahn. Il est 15h.